l'épître aux Romains. Seigneur, nous voulons te demander encore une fois, avant d'ouvrir la bouche, de pouvoir être réellement dans ta main, que tu oignes nos lèvres et que ce soit d'un cœur purifié que puissent sortir toutes les paroles que nous prononcerons et que ce cœur soit vraiment dans le sanctuaire, à ton trône de grâce, d'où jaillissent vraiment les flots de la vie éternelle, afin que ces paroles que nous écoutons ensemble, que nous méditons ensemble, nous communiquent vie, joie, paix, amour et repos en ton œuvre, ô Jésus. Amen. Bien, en ce 4 février, donc cet après-midi, nous continuons notre étude sur les caractères de la vraie foi et nous pourrions donner comme sous-titre « D'où nous vient la foi ?» Je pense qu'en lisant ce chapitre, vous auriez pu le lire en disant « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc il est question des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Vous pouvez mettre d'autres noms que eux. Je pensais par exemple aux témoins de Jéhovah. Est-ce que vous les aimez? Il y en a qui les aiment pas. Il n'y a pas encore beaucoup d'amour. Hein. Mais il faut les aimer aussi. Et pas seulement dire, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Oh. Il faut aussi les aimer. Eh bien, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, disons aussi pour les témoins de Jéhovah, hein, et puis pour d'autres, mettez d'autres noms, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de zèle. Hein? Mais peut-être sans intelligence, sans connaissance, puisque les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais quand Jésus était sur la terre, on aurait pu dire que c'était tous des témoins de Jéhovah. Hein? Les Juifs de son temps, ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils unique et éternel de Dieu. Mais Jésus les détestait. Il les aimait. Hein? Il les aimait. Vous voyez comment on doit vraiment comprendre les choses. Puis actualiser la parole, c'est simplement la lire pour notre temps et nous dire, mais à qui est-ce qu'il s'adresserait aujourd'hui? Alors je pense que nous avons déjà compris bien des choses dans ces quelques instants. Hein? Ce matin, nous avons posé cette question, avez-vous une croyance? Où possédez-vous la foi? Et en vous posant cette dernière question, avez-vous la foi? Nous avons souligné que cela ne voulait pas dire croyez-vous en Dieu, mais croyez-vous ce que Dieu dit? Parce que nous croyons que Dieu a parlé. Et quand on vous dit est-ce que vous avez la foi, c'est pas est-ce que vous croyez que Dieu existe? Non, parce que le diable aussi, il y croit. Or, inutile de questionner. Les démons témoignaient lorsque Jésus était sur la terre qu'ils le connaissaient, ils y croyaient. Mais ils n'étaient pourtant pas sauvés. Mais croyez-vous ce que Dieu dit? Alors, la question pour nous est celle-ci. Dieu a-t-il vraiment parlé? Et quand je pose cette question, ça vous fait penser à qui? Qui a posé à peu près une question de ce genre. Hein? Satan, ben j'espère ne pas être Satan. Mais enfin, c'est une question de ce genre que le serpent a posé à qui? À notre chère mère Ève. Hein? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que vraiment Dieu vous a parlé? Est-ce que vraiment Dieu vous a dit de ne pas manger du fruit de cet arbre? C'est toujours là la question. Alors pour nous, c'est là la question. Dieu a-t-il vraiment parlé? Parce que c'est de cela qu'on doit être sûr. Et s'il a parlé, eh bien, où a-t-il parlé? Où pouvons-nous trouver le témoignage sûr de sa parole? C'est là toute la question et de la réponse que nous lui donnerons dépendra ou notre croyance ou notre foi. Alors, d'aucuns affirment que Dieu a parlé. Et ils prétendent que sa parole est à la portée de tous et qu'on la trouve dans un livre, ce livre que j'ai dans la main, qu'on nomme la Bible. Dieu a parlé dans la Bible. Mais ça nous amène à une autre question. Quelle preuve avons-nous pour prétendre que la Bible et la parole de Dieu? Parce que vous êtes au milieu d'un monde qui n'y croit pas, hein, et qui mélange tout, et qui dit, mais il y a d'autres livres, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le Coran, pourquoi est-ce que ce ne serait pas les Védas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un autre livre de Confucius ou d'un autre encore? Car vous savez que ce livre lui-même affirme son autorité quand on le lit et son inspiration divine. Quand on le lit, on voit par exemple l'apôtre Paul qui dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Pierre rend le même témoignage. Il déclare que si ce sont des hommes qui ont écrit ce livre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans la deuxième épître de Pierre. Mais nul ne peut être son propre témoin et nous avons le droit de demander des preuves. Parce que quand vous serez en face de certaines gens qui nient l'autorité de la Bible, et puis vous, vous affirmez que la Bible est la parole de Dieu, ils vous demanderont, ben, quelle preuve est-ce que vous avez? Alors, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que la Bible? Si on veut parler de la Bible, il faudrait d'abord la connaître. Or, il y a beaucoup de gens qui vous disent, oh, mais nous, on la connaît. Et puis, c'est pas vrai, hein. Que Dieu soit vrai, c'est un verset qui m'a beaucoup aidé, ça, hein, je cite souvent. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Parce que les gens vous disent qu'ils connaissent la Bible. Et puis, c'est un mensonge. Oui, ils savent qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible, mais ils ne la connaissent. Alors, si nous interrogeons les hommes afin de nous éclairer sur cette question, mais qu'est-ce que la Bible? On entend donc des réponses qui sont très contradictoires. Dans le monde religieux, donc, il y a une catégorie de personnes qui nous disent la Bible est la parole de Dieu. D'autres vous disent, oh, attention, nous aussi, nous sommes des gens religieux. Nous suivons les églises et même nous donnons des cours de Bible, mais nous dirons que la Bible contient la parole de Dieu. C'est une nuance, n'est-ce pas? Les uns vous disent la Bible c'est la parole de Dieu, d'autres vous disent attention, la Bible contient la parole de Dieu et il appartient à certains théologiens érudits de déclarer ce qui, dans ces pages, est de Dieu et ce qui vient de l'homme. Mais il y a un grand mélange dans la Bible et c'est pourquoi il faut avoir fait de grandes études pour connaître les genres littéraires et puis dire mais ça, c'est un mythe, ça, c'est une légende. Et puis ça, alors, oui, vous pouvez le prendre comme étant la parole de Dieu. Puis si vous en avez questionné d'autres, eh bien, sans nier la valeur morale de ce livre, ils rejetteront toute idée d'inspiration. Ah, c'est un livre excellent, c'est un livre remarquable, mais ne me dites pas qu'il est inspiré de Dieu. Et si vous interrogez maintenant non pas des spécialistes, mais les masses populaires, on vous dira sans grande réflexion que la Bible, c'est le livre des Juifs. Ça, on l'entend souvent. Dans certains milieux, on nous dit, ben, la Bible, c'est le livre des Juifs. Et plus nombreux encore seront ceux qui disent, et surtout avant Vatican II, qu'est-ce qu'on entendait dire au sujet de la Bible? C'est le livre des protestants. Hein. Vous l'avez peut-être entendu au Québec, ça. Enfin, vous êtes jeunes la plupart, mais autrefois, et ça j'ai entendu en France aussi, quand on parlait de la Bible, on nous disait, la Bible c'est le livre des protestants, parce qu'il y avait une réticence dans l'Église catholique. Mais depuis les encycliques des derniers papes, depuis les efforts remarquables entrepris par des laïcs catholiques, je pense spécialement à Daniel Robb, je pense aussi au révérend père Leuve, qui est le fondateur des maisons de la foi dans de nos cantons suisses, le canton de Fribourg. Je pense ensuite aux moines de Maretsou en Belgique, à l'école biblique de Jérusalem, dont le père Refoulé, un dominicain, est le directeur actuel. Eh bien, et surtout depuis Vatican II, on nous dit la Bible, c'est le grand livre de quelle église ? De l'Église catholique. Hein. Ça, alors, maintenant, c'est une affirmation. La Bible est le grand livre de l'Église catholique. Et même en 1984, on l'a proposé ou on demande que la Société biblique canadienne fasse une Bible spéciale avec l'image de Jean-Paul II sur la couverture. Ce qui, je le pense, ne se fera pas, du moins je l'espère, qu'on vende des shorts ou des t-shirts avec l'image devant ou derrière de Jean-Paul II. Ça, c'est leur affaire, hein, ceux qui veulent faire des affaires comme ça. Mais même les évêques ne sont pas chauds pour qu'on fasse une Bible avec l'image de Jean-Paul II sur la couverture. Mais c'est pour vous dire le changement qu'il y a aujourd'hui. On vous dira facilement, mais la Bible, c'est le grand livre de l'Église catholique. Et c'est vrai que l'Église romaine avait la Bible avant le protestantisme, puisque le protestantisme est venu après. Comprenez-vous? Alors, faisons attention à nos affirmations. Mais si vous trouvez, et si vous parlez à d'autres personnes, on vous mettra tout de suite en garde contre ce livre, on le dit volumineux, plein de mystères, de contradictions, sans parler de choses bizarres et douteuses, de fables, de légendes, de mythes, un livre qui nous parle des mœurs et des us et des coutumes d'un autre peuple, d'un autre âge, un livre qui contient même des choses scandaleuses, faites attention, hein. C'est pire qu'à la télévision. Un livre qui est dangereux pour les enfants. Surtout, hein, laissez la télévision à vos enfants. Achetez un nouveau poste en couleur pour vos enfants, mais enlevez-leur la Bible, parce que ça pourrait les conduire à des choses affreuses. Dangereux pour les enfants. Et puis, enfin, qui vous donne une fausse idée de Dieu, ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu jaloux, ce Dieu colérique, etc. Il ne faut pas mettre ça entre les mains d'un enfant. Il nous donne une fausse idée de Dieu et aussi de l'homme. Eh bien, que pouvons-nous dire? Ceux qui partagent de telles opinions sur la Bible, ils prouvent simplement ou qu'ils ne la connaissent pas personnellement, ou bien qu'ils ne l'ont pas compris, ou encore qu'ils résistent à la vérité. Vous savez, on ne peut pas lire ce livre, oui, sans danger. Mais danger pour nous, parce que ça risque de nous révéler certaines choses, et puis on n'aime pas être mis en lumière, on n'aime pas entendre la vérité. Alors, ayons un peu de loyauté, puisque nous sommes ici ensemble, et examinons sans parti pris ce livre. Là, je m'en vais vous dire des choses que vous connaissez, qui sont des lieux communs peut-être, Avec la Bible, nous nous trouvons donc en présence d'un ouvrage qui pourrait comparer, on l'a dit souvent, à une petite bibliothèque, comprenant deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a 39 livres canoniques, c'est-à-dire reconnus comme inspirés par les Hébreux, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette première alliance que Dieu a faite avec un peuple particulier qui s'appelle Israël. Et puis, il y a 27 livres qui forment le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance que Dieu a faite non plus avec un peuple particulier, mais avec l'humanité tout entière, sans distinction de race. Donc, 66 livres furent écrits au cours de 16 siècles, par plus de 40 auteurs différents, parmi lesquels vous retrouvez toutes les classes de la société. Elles sont, pour ainsi dire, toutes présentées. Il y a des rois qui ont écrit, il y a des poètes, il y a des hommes d'État, un médecin, lequel ? Luc, hein, oui. Il y a des soldats, vous en connaissez ? Josué, hein. Il y a même un douanier ou un percepteur d'impôts, Matthieu, Lévi. Hein? Il y a des pêcheurs, il y a des bergers comme Amos. Mais, direz-vous, tout ceci ne prouve pas que ces hommes ont été inspirés de Dieu. Alors, quelle preuve est-ce que nous avons que ces hommes, vraiment pris dans toutes les couches de la société, ont été inspirés de Dieu, qui n'ont pas mis leur propre pensée? Alors, je me bornerai à citer ici cinq preuves de l'inspiration de la Bible, après quoi nous examinerons très brièvement si le message biblique est si absurde et si dépassé en 1984. La première preuve, quand on lit la Bible, eh bien, c'est de nous rendons compte qu'il y a des prophéties, c'est-à-dire des événements qui ont été prédits dans ce livre et qui ont été accomplis, que nous pouvons constater de nos yeux. Premièrement, il y a les prophéties qui se rapportent au peuple juif, à sa dispersion et puis aussi à sa restauration. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël, même les incroyants sont placés en face de l'évidence. Ce peuple qui était dispersé parmi toutes les nations, et vous savez que depuis 1948, il est de nouveau sur ces terres qui avaient été promises aux descendants d'Abraham, et l'État d'Israël a été proclamé, même reconnu par les Nations Unies, ce qui ne veut pas dire qu'il ne passe pas par toute espèce de difficulté et qu'on ne cherche pas à le détruire. Mais enfin, ce qui avait été prédit au sujet de la restauration d'Israël est en train de s'accomplir. Puis, il y a les prophéties qui se rapportent aux nations païennes, et en particulier à Babylone. Et sans contredit, ces prophéties, si vous connaissez un peu l'histoire profane, sont devenues histoire. Je passe plus loin, un troisième point, les prophéties concernant Jésus-Christ. Et les prophéties se rapportant à la destruction de Jérusalem. Oui ou non, est-ce que Jésus-Christ est venu ? Et non seulement il est venu, nous sommes dans l'ère chrétienne, depuis bientôt 2000 ans, mais nous savons que Jésus-Christ avait annoncé la destruction de quelle ville ? De Jérusalem. Il l'a annoncé à l'avance. Et en l'an 70, cette ville a été détruite. Il y a maintenant les prophéties de Jésus-Christ ayant trait à la fondation et à l'édification de l'Église. Est-ce que Jésus-Christ a dit un jour qu'il bâtirait une Église ? Je ne parle pas d'une construction humaine, je ne parle pas d'un temple de pierre, hein, Mais est-ce qu'il a dit qu'il bâtirait une église? Son église, oui. Et est-ce qu'il existe? Est-ce que l'église de Jésus-Christ existe? Oui, n'est-ce pas? Nous le savons, malgré les divisions qui se trouvent dans ce qui s'appelle l'église, il y a une église. Maintenant, il y a aussi les prophéties des apôtres. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont prédit quand vous lisez leurs lettres? Eh bien, ils ont prédit quoi? La conversion de toutes les nations? Ils ont prédit qu'à la fin des temps, l'évangile serait rejeté. L'évangile, oui, serait annoncé à toutes les nations pour leur servir de témoignage, mais ils n'ont jamais dit que les nations se convertiraient à l'évangile. Ils ont dit que l'évangile serait annoncé partout pour servir de témoignage, et ça, Jésus l'a dit, mais qu'à la fin, ces nations qui ont connu l'évangile, qu'est-ce qu'elles feront? Elles rejetteront ce témoignage. Elles apostasieront de la foi. De sorte que nous ne sommes pas en pleine christianisation du monde, mais nous sommes en pleine déchristianisation du monde. Malgré toutes les réunions d'évangélisation que nous pouvons faire et que nous devons faire, mais nous ne devons pas nous faire d'illusions, nous ne sommes pas appelés à christianiser le monde, mais à l'évangéliser. Et quand on évangélise le monde, on ampute le monde, des âmes se convertissent, mais nous n'améliorons pas le monde par la prédication de l'évangile. Le monde, il est jugé déjà, et le jugement vient sur le monde. Et on ne peut rien faire pour empêcher la colère de Dieu de venir sur ce monde. Alors comment est-ce qu'on doit vivre, puisqu'on sait que la colère de Dieu vient? Par la foi. Le juste vivra de foi. Et notre foi s'empare des promesses qui nous disent que nous attendons qui? Jésus qui nous délivre de la colère qui ne viendra pas? De la colère à venir, de la colère qui vient. La colère, ça main sur le monde, la colère vient sur ce monde. Et vous devez être bien convaincu de cela. Et vous ne devez pas être troublé en voyant cette déchristianisation du monde. Ce sont des choses qui ont été prédites à l'avance. Et nous sommes en plein dans ces temps-là, qui sont les derniers jours ou les dernières minutes de la dernière heure. C'était annoncé. Donc ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais quand vous verrez ces choses, sachez que le temps est proche à la porte, que le jour va venir où le Seigneur apparaîtra et lui-même redressera toute cette situation. Eh bien, quand on lit vraiment les Écritures ainsi, son parti pris, on s'écrit, c'est la vérité. Mais si du haut des chairs, pour calmer le peuple, on dit paix, paix, quand il n'y a pas de paix, eh bien, on trompe le peuple. On trompe le peuple. On lui donne l'illusion que ça ira mieux. Qu'il suffit de se tourner vers le Seigneur, simplement, et que ça ira mieux. Oui, nous devons nous tourner vers le Seigneur, mais le Seigneur, lui, quand il nous prend et nous possède pour faire de nous des disciples, qu'est-ce qu'il nous demande? De le suivre. Et je sais, en tout cas, que je ne pourrai pas régner où mon maître a été crucifié. De sorte que je n'ai à m'attendre de la part du monde qu'à une croix. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si mon maître a été crucifié, eh bien, à quoi puis-je m'attendre? À une croix, qui ne sera pas une décoration, qu'on porte, comme ça, mais qui sera vraiment peut-être un instrument de mort. Il faudra peut-être donner notre vie pour notre foi. C'est pourquoi il faut que nous ayons une foi ferme, une foi solide, une foi qui ne voit pas les fusils ou la mitraillette devant nos yeux, mais qui voit l'invisible. La foi, elle se manifeste en ayant devant elle des choses visibles, elle les surmonte pour s'emparer ces invisibles. C'est pour ça que vous n'aurez pas même peur de la mitraillette. Vous regardez le Seigneur. Et comme ma chère belle-mère, dont je chéris la mémoire, le disait, quand on lui demandait, mais quand les Japonais, puisqu'elle était missionnaire en Chine, vous couraient derrière avec leurs sabres, vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire? Ils pouvaient nous envoyer vers le Seigneur. C'est tellement beau, ça. Nous couper la tête, c'est nous envoyer vers le Seigneur. Mais ça, pourquoi? Mais parce que son Seigneur, c'était son Seigneur, elle voyait le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut nous faire? Nous tuer? Ça ne prive rien de plus. Et tout ce qu'ils auront fait, c'est de nous envoyer vers le Seigneur. Et être vers le Seigneur, c'est une part beaucoup meilleure que d'être sur la terre et d'être encore torturé. Alors, c'est pas une catastrophe de s'en aller vers le Seigneur. Voilà, la foi, une foi solide. Maintenant, il y a une deuxième preuve. J'ai parlé, comme première preuve, des prophéties bibliques. J'ai montré plusieurs points au sujet de l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais maintenant, quand on lit la Bible, on est frappé par une chose. Surtout si vous lisez la Bible depuis la première page à la dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cela? Non, c'est trop compliqué. Il faudrait trop de temps. Il faut à peu près 70 heures pour faire ça. Pour lire la Bible du commencement à la fin. Et c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas pris ce temps. Je vous dis pas qu'il faut lire les 70 heures sans arrêt, hein, mais vous allez en continuant. Eh bien, c'est à cause de ça, parce qu'on n'a pas cette vision globale des Écritures, que l'on ne connaît pas vraiment l'unité de l'esprit qui se trouve à travers toute la Bible. Et c'est ça une des deuxièmes preuves. L'unité de l'esprit qui pénètre toute la Bible, malgré son étonnante diversité de temps et d'auteurs. Vous voyez que c'est écrit au cours de 15 siècles. Eh bien, partout, nous trouvons le même souffle et le même but. Maintenant, on vous sépare, on a des petites portions, vous lisez ceci, vous lisez ça, etc. Mais il n'y a pas cette vision globale de l'Écriture. Et je crois qu'il nous faut revenir à cela pour être saisi par l'unité de toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, une troisième preuve, c'est le caractère de durée, d'universalité des messages de la Bible et son application admirable à tous les âges, et je dirais aussi à tous les tempéraments, à tous les degrés de la civilisation, à tous les peuples et à tous les siècles. Et on peut dire que la Bible est toujours en avance sur les progrès de la civilisation. C'est vrai. La Bible est en avance sur les progrès de la civilisation. Je me souviens d'avoir donné comme titre, c'était en France, il y a bien une trentaine d'années, à mes conférences que je devais faire dans la ville de Nîmes, dans le Gard, en France. Eh bien, on avait mis comme titre les dernières nouvelles dans la Bible. Oui, bien, la Bible nous donne les dernières nouvelles. Est-ce que vous lisez les dernières nouvelles dans la Bible? Vous savez, elles ne sont pas contradictoires. Maintenant, il y a un quatrième point. C'est la conservation merveilleuse et la diffusion toujours croissante de ce livre. C'est un livre qui a été attaqué, poursuivi, interdit, brûlé. Et il est aujourd'hui traduit en plus de 1200 langues et dialectes et diffusé en des millions et des millions d'exemplaires par année. C'est quand même quelque chose, hein. C'est pas rien, la Bible. Puis, la cinquième preuve, la dernière que je donnerai ici et qui est la plus puissante, à mes yeux, elle se trouve dans les effets que ce livre produit, dans les transformations qu'il opère, dans les foyers, dans les vies, et dans l'impression immédiate et irrésistible que cette parole produit sur toute conscience droite. En l'écoutant, comme il est dit dans Ésaïe, on s'écrie, et ça c'est la vérité. C'est la vérité. Une conscience droite reconnaît que ce livre dit la vérité. Même, ça nous fait peut-être un peu mal, hein, mais on dit, c'est la vérité. Et je suis émerveillé, j'ai rencontré au cours de mon ministère des gens qui m'ont dit avoir été sauvés, ils n'ont eu aucun frère, aucun pasteur, aucun prêtre pour leur expliquer, mais ils ont eu une Bible. Et ils sont mis à la lire. Mais ils l'ont lu avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire sans raisonnement, sans raisonner, mais en croyance que la parole de Dieu leur disait. Et croyez-vous, croyez-le, ce n'était pas des imbéciles. Hein. Parce qu'on peut avoir peu d'instruction, mais l'instruction, c'est encore l'intelligence. Mais le Saint-Esprit, ils ont demandé, ils ont prié, ils ont vu qu'il était dit qu'il fallait prier, et puis ils ont découvert des choses remarquables. Et même les vérités concernant le rassemblement, concernant l'Église, une fois qu'ils ont eu l'assurance du salut, ils ont cherché à partager avec d'autres ce qu'ils avaient trouvé. Puis ensuite, ils se sont réunis et des communautés se sont constituées sans qu'ils aient besoin de prendre exemple sur des modèles ou qu'ils parlent d'une église mère. Comprenez-vous? Quand on se laisse guider par le Seigneur est encore capable de vous conduire aujourd'hui à comprendre ses pensées et à se réunir autour de sa personne et à s'édifier ensemble sur notre foi. Mais s'il y a des personnes qui reconnaissent que la Bible, oui, est la vérité, il y en a d'autres pour qui l'Évangile est voilé, qui nous disent, mais moi j'ai essayé de lire. Et la parole de Dieu dit que pour certains, l'Évangile est voilé. C'est Saint Paul qui dit ça. Mais il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. L'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais il est ajouté immédiatement la qualification de ceux qui périssent pour les incrédules. Pour ceux qui ne croient pas. Ils lisent cela, mais non, ils ne croient pas. Alors, ils manifestent leur incrédulité. C'est ça le péché. C'est le péché au singulier, c'est cette attitude qu'on a. Non, moi je ne crois pas à ça. Elle repousse la chose. Alors je ne pourrai jamais comprendre les Écritures. Si ma position est une position d'incrédulité, je ne peux pas comprendre. L'Évangile, il est voilé pour les incrédules, dont il est dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui c'est le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Et il a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de Dieu, est-il dit, de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, si le Seigneur le voulait, que aujourd'hui, quelqu'un parmi vous puisse voir briller la face du Christ, et que contemplant par les Écritures, la face du Christ, parce que ce n'est pas le Christ de notre imagination qu'on doit contempler, c'est le Christ de la révélation. Et c'est en lisant les Écritures, c'est en lisant les Évangiles, qu'on a l'image, la vraie image du Christ. Et on voit le Christ en lisant les Évangiles, et quand on a contemplé le Christ dans les Évangiles, qu'est-ce qu'on a vu? Le visage de qui alors? De Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. La connaissance du Père, vous l'avez par le Christ. Vous ne pouvez pas connaître le Père sans passer par le Christ. Les perfections invisibles du Père céleste, elles ont été rendues manifestes dans le monde. Sur quel visage? Sur le visage du Christ, dans la vie du Christ. C'est en considérant la vie du Christ que vous apprenez à connaître quelque chose du Père. Parce que de qui parlait Jésus? De son Père. Et si vous voulez savoir qui est votre Père, mettez-vous à l'école de qui? De Jésus. Et lui vous révélera le Père. Et vous connaîtrez un bon et tendre Père. Alors maintenant, considérons brièvement le contenu de la Bible pour voir si vraiment ce que contient la Bible est si dépassé. Et si les affirmations bibliques, enfin, si on peut vraiment les croire. Alors, nous n'allons pas discuter sur les textes, mais je vais vous donner simplement les grandes lignes de la Bible, très, très courtement. Puis vous, vous allez me dire si c'est juste ou si c'est faux, qui que vous soyez. Je vous demande de répondre, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? On prend notre Bible, hein, puis on l'ouvre aux premières pages. Et qu'est-ce que nous voyons? La Bible nous raconte que l'homme créé par Dieu s'est volontairement séparé de lui. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous voyez l'homme avec Dieu aujourd'hui? Il est facile de constater qu'aujourd'hui les hommes vivent loin de Dieu. Donc, s'ils ont été un jour avec Dieu, ils ne sont plus dans la proximité de Dieu. Donc, c'est pas si faux que ça. Les hommes ne sont pas avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. L'homme créé par Dieu, vous en doutez que ce soit Dieu qui ait créé l'homme, mais enfin, si l'homme existe, il a dû avoir un commencement, bien nous, nous croyons que c'est Dieu qui l'a créé, mais il n'est plus avec Dieu, il n'est plus avec son Créateur. Puis, la deuxième chose que la Bible nous apprend, c'est que, par sa désobéissance, s'étant éloigné de Dieu, l'homme tomba, selon la Bible, sous la puissance du péché et de la mort. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Vous dites, non, ne nous parlez pas de péché, le péché ça n'existe pas. Le monde n'est pas sous la puissance du péché. Vous appelez pas ça péché? Ce que vous voyez aujourd'hui? La transgression de la loi, c'est ça le péché. Il y a les vols, il y a les crimes, il y a tout ce que vous voulez. L'homme est sous la puissance du péché. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Séparé de Dieu, l'homme est tombé sous la puissance du péché et de la mort. Mais non, c'est pas vrai. C'est une illusion. On ne meurt pas. Les cimetières, c'est une illusion. Allez là-haut, là, il y a un petit cimetière. C'est une illusion. Ces tombes, c'est des sœurs qui ont fait ça, des petits monuments comme ça, mais il n'y a rien là-dessous. Hein? La mort, c'est une illusion. C'est vrai? Non. La Bible nous dit que la mort, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai qu'on doit mourir? Oui. Hein? Même les incrédules, même les athées savent qu'il faut mourir. Donc, c'est pas si faux que ça, ce que la Bible nous dit. Maintenant, troisième point. La Bible nous raconte que laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire sans loi, parce que au début, il n'y a pas eu de loi, les hommes devinrent si mauvais que Dieu décida de les détruire par le déluge. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Je ne demande pas si vous croyez au déluge. À ce déluge dont Jésus a parlé. Mais si l'expérience ne prouve pas qu'un peuple laissé sans loi aboutit à l'anarchie, quelle est l'expérience humaine? Quand il n'y a pas de loi dans un peuple, ça finit dans l'anarchie. Et alors, pour contrer l'anarchie, qu'est-ce qu'on a fait? La dictature. Plutôt un dictateur que l'anarchie. Tôt ou tard, quand un pays arrive dans l'anarchie, il est à la veille de la dictature. Ben voilà ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que laissés sans loi, les hommes sont devenus si mauvais que Dieu a décidé de détruire cette humanité. Par quoi? Par le déluge. Mais en même temps, dans sa grâce, il a sauvé Noé avec son arche. Alors, après le jugement du déluge, les hommes ont confirmé les affirmations de Dieu et ils ont prouvé que le cœur de l'homme est vraiment incurable. Et c'est en face, on peut le dire, d'une évolution régressive que la Bible nous place. Il est dit dans Romains 1 que, ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils devinrent vains dans leur intelligence, leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu invisible en l'image d'abord d'hommes, puis d'oiseaux, puis de quadrupèdes, puis de reptiles, puis c'est ça qu'ils étaient en train d'adorer. Vous voyez, il y a eu une connaissance de Dieu au début, mais en s'éloignant de Dieu, cette connaissance s'est dégradée et l'homme a adoré finalement la créature et même les animaux et même la pierre. Alors, les forces de la nature furent divinisées, les hommes furent livrés alors à des passions infâmes et à toute leur convoitise, à un esprit réprouvé qui appelait le jugement de Dieu sur eux et faisait retomber les civilisations brillantes à l'âge de la pierre. Et vous avez tout le temps cette histoire-là. Il y a une ascension, semble-t-il, de la civilisation, puis tout à coup, quand la civilisation arrive à son fait, au fait de la connaissance, il y a la chute. Et nous sommes dans un temps qui est un peu semblable. Alors, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux, ça? C'est juste. Quel est le témoignage d'histoire? Souvenez-vous un peu de l'histoire que vous avez appris, toutes ces civilisations qui sont montées puis qui sont tombées. Je ne vais pas les énumérer. Alors on apprend, toujours en lisant la Bible, en continuant cette lecture, que Dieu intervint en grâce, que au sein du paganisme, ce paganisme qui a repris après le déluge, donc les générations qui avaient été sauvées du déluge par Noé, les descendants de Noé sont retombés dans l'idolâtrie, dans le paganisme. Alors Dieu se choisit un homme, qui s'appelle comment ? Abraham. Il sort de l'idolâtrie, et il se révèle à lui, et lui fait la promesse qu'il deviendrait le père d'un grand peuple, et que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'il y a eu un homme qui s'est appelé Abraham ? On l'a nié, on a dit qu'Abraham était un type légendaire. Puis maintenant, d'après les découvertes archéologiques qu'on a fait à Marie et ailleurs, en Mésopotamie, on sait qu'Abraham a existé, mais on n'a pas besoin des archéologues pour nous prouver que c'est vrai. La Bible l'a dit, et nous croyons qu'Abraham a existé. Et pour quelle raison, nous autres ? Parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham a vu mon jour. Jésus a rendu témoignage à Abraham. Et le témoignage de Jésus est suffisant pour nous pour qu'on croie à la réalité d'un homme qui s'est appelé Abraham et qui est même le père de tous les croyants, le père de ceux qui ont la foi. Alors, je vous pose cette question. Est-ce juste ou faux cette histoire d'Abraham ? Israël, parce que Dieu fait une promesse à Abraham, et qu'il deviendrait un peuple, et que de ce peuple sortirait un libérateur qui est Jésus le Messie. Alors, Israël, le Christ, et que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité, c'est les communautés chrétiennes, l'Église, tirée de toutes les nations. Maintenant, un sixième point. Si je continue de résumer un peu tout ce qu'il y a d'essentiel dans la Bible, laissons de côté momentanément les nations, parce que les nations existaient à côté du peuple suscité d'Abraham. Laissons de côté momentanément les nations, Dieu, selon la Bible, se consacra à l'éducation du peuple qu'il avait choisi. Et il fit d'Israël le dépositaire de ses pensées et il lui donna une loi. En attendant de faire naître de ce peuple le Messie qui devait sauver non seulement Israël, mais le monde entier. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a un peuple sur la terre qui a reçu une loi directement de Dieu? C'est vrai, hein? C'est le peuple d'Israël. Et la loi de Moïse, qui a été donnée au Sinaï, est-ce qu'elle n'est pas à la base de tous les codes, ou presque de tous les codes civils du monde? Il faut le reconnaître. Les codes civils du monde entier, eh bien, sont basés sur quelle loi? La loi de Moïse. Donc, nous pouvons croire que la Bible est dit vrai. Dieu a donné une loi, et cette loi a servi de base à tous les codes civils du monde. Enfin, la Bible nous apprend qu'au temps fixé par Dieu, quand la loi eut donné à l'homme la conscience de son péché et la révélation de son impuissance à se sauver lui-même, Dieu accomplit sa promesse et envoya Jésus-Christ dans le monde pour racheter l'humanité. Il avait donné la loi à ce peuple d'Israël en lui disant « Faites ces choses et vous vivrez ». Est-ce que le peuple d'Israël a accompli la loi? Non. La loi a montré l'impuissance de ce peuple qui se réclamait pourtant de Dieu de faire le bien. De sorte que ce peuple a été convaincu au contraire de péché. Puis il avait laissé les nations suivre la voie de leur conscience. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent encore aujourd'hui, mais pour moi, mon Dieu, ben, c'est ma conscience. J'ai ma conscience. C'est pas besoin de Dieu, hein. Moi, j'ai ma conscience. Mais est-ce que la conscience est un guide sûr? Où pouvez-vous trouver la preuve que la conscience, on l'écoute pas toujours? Pilate. Prenez Pilate. C'est très frappant. Quand Jésus est venu, le peuple qui avait la loi, le peuple juif, le résidu d'Israël, se trouvait en Palestine, et en même temps, le peuple qui était guidé par sa conscience, donc les Romains, les païens, qui avaient une conscience, étaient là, ensemble. Alors, Jésus naît au milieu du peuple juif. Lui rend la loi grande et honorable. Personne ne pouvait le convaincre de péché. Il était sans péché. Eh bien, ce peuple ne peut pas supporter un des siens, parce que justement, il devient un gêneur, parce qu'il marche selon les pensées de Dieu, et ce peuple décrète qu'il veut se tuer Jésus. Mais comme ils n'ont pas le droit de le tuer, ils doivent le livrer aux Romains. Et les Romains ont le pouvoir d'épargner Jésus. Et le Romain, s'il écoute sa conscience, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer Jésus. Et sa conscience parle très fort aux Romains. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ben, c'est sa femme qui lui dit ça. Et, vous voyez, il a une femme qui est une aide, n'a rien à faire avec ce juste. Mais sa conscience à lui disait que cet homme n'avait fait aucun mal. Mais quand il entend le peuple dire « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César », comme lui, Pilate, est représentant de César, il a peur pour son poste. Il a peur qu'il un rapport fait à Rome, et il préfère sacrifier le Nazaréen. Il dit à Jésus, mais est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier? Que lui dit Jésus? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est extraordinaire, ça. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Et Pilate est très mal à l'aise, mais il fait taire sa conscience et il livre Jésus pour qu'il soit crucifié. De sorte que là, à la croix, vous voyez la faillite de la religion de la loi, celle des Juifs, pour les justifier. Il montre la méchanceté de leur cœur, c'est que s'ils en sont capables, ils feraient mourir le Fils de Dieu. Enfin, celui qui s'est dit Fils de Dieu. Et puis, vous voyez la faillite de la religion, de la conscience, quand on dit, nous avons notre conscience, ça suffit, nous connaissons les lois naturelles, pourtant on les transgresse. Donc, faillite de la religion de la loi, faillite de la religion de la conscience, faillite de l'humanité tout entière, toute chair a corrompu sa voix, et il n'y a plus devant la croix que des hommes qui sont coupables. Est-ce que vous avez accepté cela? Est-ce que vous avez eu cette révélation? Voilà ce que la Bible nous révèle. Que nous sommes tous coupables. devant Dieu et qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Et alors, maintenant, on arrive au Nouveau Testament. Donc, Jésus est venu. Les évangiles nous racontent sa naissance, ses paroles, ses vœux, sa mort, sa résurrection, parce que Jésus est réellement ressuscité. Alors, vous avez là les quatre évangiles qui vous racontent ces faits, qui ne sont pas des légendes. Bien, est-ce que vous croyez que le Christ est légendaire? Si vous croyez qu'il y a eu un homme qui s'est appelé Jésus-Christ? Il y en a qui n'y croient pas. Hein. Vous dites que c'est un mythe. Non, c'est une personne. Jésus-Christ est né. Alors, les actes des apôtres, qui couvrent une période de 30 années, témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. Les évangiles nous parlent de ses paroles, de sa vie, de ses œuvres, puis aussi quelques mots de sa résurrection, mais c'est surtout dans les actes que vous voyez les disciples de Jésus-Christ et qui témoignent de sa résurrection. Ils ont été les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans les actes, vous voyez les fruits de l'œuvre de Jésus-Christ. Et en l'espace, c'est ça qui est très intéressant, en l'espace de 35 ans, et il n'y avait pas encore les avions, en l'espace de 35 ans, l'évangile, annoncé par une poignée d'hommes, ils n'étaient pas nombreux, parce qu'à la chambre haute, ils étaient combien? 120, L'évangile annoncé par une poignée d'hommes est passé de Jérusalem, la ville juive, à Rome, la capitale du monde antique, en passant par Athènes, la capitale de la sagesse humaine, et par Corinthe, qui était le haut lieu de la luxure d'un monde au crépuscule. Corinthe était une ville absolument dépravée. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons en cet espace de 35 ans? Les synagogues juives sont délaissées, les écoles des philosophes grecs ferment leurs portes, les lupanars perdent leur clientèle, les temples païens sont détruits, mais partout des communautés nouvelles voient le jour, formées de juifs et de païens convertis au Christ et qui s'appellent entre eux des frères, tandis que le monde les appelle des chrétiens, les disciples du Christ. Tout cela se passe à Antioche. Et c'est ainsi que commencèrent à circuler les lettres que les apôtres se virent contraints d'écrire à ces églises naissantes ou à des serviteurs qui devaient continuer leur tâche. Voilà pourquoi on a des lettres. Ces lettres sont venues de ce besoin qu'ont eu les apôtres de fortifier la foi de ces communautés naissantes, et puis aussi de fortifier la foi de ceux qui étaient appelés à leur succéder parce qu'eux allaient passer par le martyre. Alors, c'est ainsi que nous avons les lettres de Paul, les lettres de Jacques, la lettre de Jacques, celle de Pierre, celle de Jean, celle de Jude, où la doctrine chrétienne est fixée définitivement. Nous avons des lettres où cette doctrine chrétienne est fixée. Alors, enfin, nous avons l'Apocalypse de Jean, où un voile est levé sur les choses à venir, sur les événements qui doivent conduire à la consommation de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Voilà. Tel est le contenu de la Bible. J'ai essayé de vous le résumer d'une façon très brève. Et Jésus-Christ a rendu témoignage à toutes les parties de l'Ancien Testament, ce qu'on appelait les Écritures, qui étaient formées de la loi, des psaumes et des prophètes. Et c'est absolument passionnant de voir tous les hommes dont Jésus a parlé et tous les faits que Jésus a soulignés et qu'aujourd'hui on nie. On dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Bien, Jésus y croyait. Jésus-Christ a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Il a parlé du chapitre 2 de la Genèse. C'est vrai ou c'est faux? Au sujet de quoi? Du divorce. C'est de l'actualité, ça. Hein? Jésus cite le chapitre 2 de la Genèse pour montrer que l'homme doit rester uni à sa femme. Hein? Puis, il a parlé premier homme qui est mort, d'Abel. Et il a parlé de qui encore? Il a parlé d'Enoch, il a parlé du déluge, il a parlé de Noé, il a parlé de Lot, de la destruction de Sodome, il a parlé d'Abraham, il a parlé de Moïse. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Il a parlé des prophètes, il a parlé des juges, il a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Il a parlé d'Ésaïe, le prophète. Et non seulement Jésus a revêtu de son autorité l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, par qui a-t-il été écrit? Par les apôtres, par des hommes qui ont été choisis par Jésus. Des hommes comme Matthieu, Pierre et Jean ont été choisis par le Christ comme étant les témoins oculaires de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous qui avons été témoins de sa vie, de sa résurrection, nous qui avons mangé avec lui après sa résurrection, dira Pierre. Puis il a choisi d'autres hommes, comme Luc, qui était un médecin, comme Saul de Tarse, qui était pourtant un juif, mais un citoyen romain, mais autrefois ennemi des chrétiens. Qui est-ce qu'il a choisi, ce Saul de Tarse? C'est les apôtres de Jérusalem qui ont réussi une merveilleuse conversion? Pas du tout. Qui est le père spirituel de Saul de Tarse? C'est Jésus. Jésus qui se révèle à son âme. Sur quel chemin? Le chemin de Damas, cette ville dont on parle si souvent. Le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, que c'est beau la parole de Dieu. Et c'est ce Saul de Tarse qui est choisi par le Seigneur. Et à ce blasphémateur, Jésus glorifié se révéla personnellement et lui communiqua son évangile. Quand Paul parle de son évangile, est-ce que c'est un évangile qu'on mettra en opposition à celui de Matthieu, de Luc ou de Jean? Non. Mais il veut dire simplement que c'est le Seigneur qui lui a révélé l'évangile. Mais cet évangile de Paul correspond en tout point avec les autres évangiles. Mais lui, il l'a reçu directement du Seigneur. Donc, on a dans les écrits de Paul le message du Christ dans la gloire. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, justement, vous avez la révélation de ce qu'est Jésus dans la gloire. Au fond, c'est l'évangile de la gloire, l'Épître aux Hébreux. Dans les évangiles que vous avez au début du Nouveau Testament, c'est les évangiles de la terre, c'est la vie terrestre de Jésus. Mais quand on lit l'Épître aux Hébreux, on a une idée de ce que c'est Jésus dans le ciel, maintenant. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, on a pu aussi l'appeler un cinquième évangile, c'est l'évangile du Christ glorifié. Et bien, l'apôtre Paul a reçu son évangile du Seigneur dans la gloire. C'est pourquoi il dit, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. Il ne dit pas, j'ai reçu de Pierre, de Jacques ou de Jean qui m'ont communiqué l'évangile. J'ai reçu du Seigneur. Alors, touchez maintenant à la Bible, ou plus exactement au message de la Bible, et vous touchez au Christ lui-même, mettant en doute son infaillibilité et sa divinité essentiel. C'est pourquoi, au terme de cet exposé, nous voudrions vraiment convier tous ceux qui se sont contentés d'une croyance d'examiner s'ils ne seraient pas temps pour eux d'avoir la foi pour posséder vraiment une conviction. Est-ce que vous ne voulez pas revenir à la Bible pour posséder la foi? Qu'est-ce que vous avez lu dans le chapitre 10 des Romains? Nous allons faire une petite interruption, puis je reprendrai encore un moment pour vous donner les différents sens du mot foi. Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est l'Écriture, enfin je ne prétends pas que vous ne l'aviez pas déjà, c'est ce que l'essence de l'Écriture, mais on a voulu rafraîchir encore vos connaissances, vous rappeler que ce qui est dans la Bible est vrai, est actuel. Eh bien, est-ce que nous ne voulons pas revenir vraiment à l'Écriture? Qu'est-ce que vous avez lu dans le chapitre 10 des Romains? La foi, elle vient d'où? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Voulez-vous avoir la foi? Voulez-vous avoir plus de foi? Lisez les Écritures. Et étant convaincu, croyez les Écritures. Et si vous croyez, confessez de votre bouche que ça est vrai. Parce que vous savez, on va être appelé peut-être à confesser notre foi. Et ça ne sera pas un cher pasteur qui va demander, Dieu, nous aimerions que ce soir on entende le témoignage de notre jeune sœur ou de notre frère qui vienne rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour eux. Il faudra peut-être confesser sa foi devant des gendarmes, devant des soldats, brutalement, qui nous diront, mais est-ce que tu y crois, ça? Qu'est-ce que nous ferons? Ça sera une toute autre atmosphère. Et si tu renies, tu as la vie. Tu peux partir. Mais si tu confesses, c'est le poteau. C'est l'exécution. C'est ce que nous ferions. Et vous savez, c'est tous les jours que ça se passe. C'est tous les jours. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver ici. Nous ne savons pas. Alors nous devons être prêts. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse une petite interruption et puis qu'on reprenne après pour voir les différents sens du mot foi pour que nous ayons vraiment une meilleure compréhension des choses ou bien vous en avez assez? On peut se détendre un petit moment? Eh bien, mes amis, dans la suite de cet exposé sur la foi, nous voudrions, dans un dernier moment, examiner les différents sens que le mot foi peut avoir dans la Bible. Nous avons donné cette définition hier soir que la foi, dans son sens général, c'était la croyance qui reposait sur le témoignage. Et aujourd'hui, on a essayé de voir quel était ce témoignage de la Bible. Et au fond, avoir la foi, c'est croire ce témoignage des Écritures. Mais dans la Bible que nous étudions, ce mot, premièrement, peut désigner l'ensemble des vérités révélées par Dieu. L'ensemble des vérités mises en lumière par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce que peut signifier le mot foi. Et je vous en donnerai quelques exemples. Dans l'épître de Jude, le mot foi désigne l'ensemble des vérités chrétiennes. Jude, c'est l'épître qui précède l'Apocalypse, l'avant-dernière épître de la Bible. Je lis le verset 3. Jude écrit, « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » Là, le mot foi désigne l'ensemble des vérités du christianisme, le credo, en quelque sorte. La foi, ici, doit être comprise dans ce sens-là. L'ensemble des vérités du christianisme. Ça a été communiqué au saint une fois pour toutes. Il n'est pas question d'évolution dans la foi ou dans les vérités chrétiennes. Ce qui nous a été transmis est la vérité. C'est une fois pour toutes. Et nous n'avons rien à ajouter à ce que nous trouvons dans l'Écriture et nous n'avons rien à retrancher. Vous trouvez ça à travers toute la Bible. Dans le Deutéronome, il est dit déjà, n'ajoute pas à ces paroles. Tu n'ajouteras rien à ce que je te commande et tu ne retrancheras rien. Vous avez ça dans le chapitre 4 du Deutéronome et dans le chapitre 12, deux fois c'est répété. Puis dans le chapitre 30 des Proverbes, au milieu de la Bible, il est dit, n'ajoute pas à ces paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur. Donc il n'y a pas des dogmes nouveaux à ajouter à ce qui est révélé dans la Bible. Puis, à la fin du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, vous avez ces paroles bien connues que nous n'avons rien à ajouter à la révélation et que nous n'avons rien à retrancher. C'est donc à travers toute la Bible. Verset 18, je déclare, du chapitre 22 de l'Apocalypse, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, un premier sens du mot foi, c'est il sert à désigner l'ensemble des vérités révélées dans les Écritures. Je citerai encore ce que Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, dans son testament spirituel, au chapitre 4 de sa deuxième épître, il dira au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et qu'est-ce qu'il dit ? J'ai gardé la foi. » Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai gardé les vérités du christianisme. C'est le bon dépôt. La foi est synonyme du bon dépôt que les apôtres ont reçu et qu'ils nous ont communiqué. C'est ça, garder la foi. Et quelquefois, rejeter la foi, c'est rejeter l'ensemble de ces vérités du christianisme, ce qu'est en train de faire ce monde. Et hélas, bien des groupes qui s'appellent encore Église, où l'on rejette les vérités qui ont été révélées. C'est le rejet de la foi. Dans Apocalypse 3 encore, au verset 13, et ce soir nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions dans l'épître à Timothée en particulier, mais on lit encore dans Apocalypse 3, au verset 13e, la foi est considérée comme l'ensemble des vérités chrétiennes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est donc l'ensemble des vérités que le Seigneur nous communique. Oui, c'était le chapitre 2 que je voulais vous citer aussi, verset 13 du chapitre 2. À l'église de Pérgame, je sais où tu demeures, je sais que tu es là où est le trône de Satan, c'est le monde, hein, on demeure dans le monde. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et dans un tel monde, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ne pas renier la foi, c'est ne pas renier l'enseignement du Seigneur. Ce que le Seigneur nous a communiqué, c'est la foi qui a été enseignée aux saints une fois pour toutes par le Seigneur et par ses apôtres. C'est donc un des sens du mot foi. Mais deuxièmement, ce mot peut aussi désigner le degré dans lequel l'âme est entrée dans la connaissance du Seigneur et de sa parole. Nous avons cela dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, et c'est un verset qui est très important, ça aussi. Romains 12, il est dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, ou selon la mesure de foi. Ici, dans ce passage, la foi nous donne la mesure exacte de ce que nous sommes et de ce qui nous est demandé. Dieu ne vous demande pas plus que vous ne pouvez. À chacun, il a donné une certaine mesure de foi. Et je n'ai pas à vouloir dépasser la mesure de foi qui m'a été donnée. Mais, bien sûr, considérez, sous cet aspect, je peux demander que ma foi augmente, que j'ai une plus grande mesure de foi, que je devienne réellement un homme de foi, dont la foi grandisse. La foi est susceptible, dans ce sens, de grandir. Mais il ne faut pas vouloir dépasser la mesure de notre foi. Vous voyez, par exemple, un homme qui a voulu dépasser la mesure de foi parce qu'il a voulu imiter un autre. J'ai parlé de Barnabas, chapitre 5 des Actes. Barnabas, lui, il comprend qu'il doit vendre son champ. Et vous savez, pour vendre un champ, il faut de la foi. Il vend son champ et puis il apporte le prix aux apôtres. Voilà Ananias qui voit ce que fait Barnabas et qui dit avec Saphira, nous aussi on a un champ. Ça fait bien quand même, tu vois, Barnabas, ce qu'il a fait. Il a été bien vu de tout le monde. Ben nous aussi on va vendre notre champ. Alors ils imitent, au fond, l'acte de foi de Barnabas, mais ils n'ont pas la même foi que lui. Et au moment, une fois qu'ils ont vendu le champ, qu'est-ce qu'ils font? Une dissimulation. Hein, c'est ça. Et ils disent, mais quand même, ça serait bon de garder une poire pour la soif, hein, comme on dit. Hein. Alors, on va apporter une partie. Mais comme ils ne veulent pas dire qu'ils apportent seulement une partie du prix du champ, ils font croire que c'est le prix du champ. Hein. Et puis, ils en ont mis une partie pour eux de côté. Mais personne ne les obligeait de vendre le champ. Et c'est ce que Pierre leur dit. Mais comment est-ce que vous avez pu mentir au Saint-Esprit? Si tu ne voulais pas vendre ton champ, il te restait. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est de nous dire que c'est ça le prix du champ. Si tu voulais en garder une partie, tu pouvais la garder aussi. Mais ne viens pas nous dire que c'est ça le prix du champ. Parce qu'alors, là, tu mens à qui? Au Saint-Esprit, et il tombe mort à cette parole de Barnabas.
Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur que tu as moissé au Saint-Esprit? Au fond, c'est cet esprit d'imitation. Tiens, ce croyant-là, il a une grande mesure de foi. Et moi, je vais montrer aussi que j'ai cette même foi, puis je ne l'ai pas. Mais Dieu ne te demande pas ça. Souvenez-vous bien de ce verset, c'est très important. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette mesure qui vous permettrait de tout donner. Mais peut-être demain que le Seigneur vous donnera cette mesure de foi. Croyez que votre foi peut grandir. Alors, c'est là que vous comprendrez mieux ces expressions que l'on rencontre spécialement dans les évangiles. Considérez sous cet aspect, donc la foi peut être petite. C'est ce que le Seigneur dit, hein, Jean de petite. Foi, vous qui vous mettez en souci pour le lendemain, Matthieu chapitre 6, verset 30. Pourquoi est-ce que vous vous faites du souci pour votre vie? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Vous n'avez pas vu les oiseaux du ciel? Vous n'avez pas considéré les lys des champs? Et c'est là qu'il parle à ses disciples de Jean de petite foi, verset 30 du chapitre 6 de Matthieu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plutôt, à plus forte raison, Jean de peu de foi? Donc la foi peut être petite, mais elle peut aussi être grande. Alors, voyez Matthieu 8, verset 10. Et où allez-vous trouver vraiment un peu plus de foi? C'est l'histoire du centenier de Capernaum. Vous connaissez ce récit, Jude, puis verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le Seigneur reconnaît même la foi d'un païen. La foi du centenier est appelée une grande foi. Au verset 26, je crois, du même chapitre, enfin vous pouvez voir, c'est Jésus au milieu de la tempête. Vous voyez ses disciples qui crient, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons », verset 25 du chapitre 6. Et il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Donc même les disciples qui étaient à l'école de Jésus, eh bien, étaient des gens qui avaient peu de foi. Mais aussi, si vous continuez cette lecture, vous voyez qu'il y en a d'autres qui étaient remplis de foi. Et, par exemple, cette femme qui avait souffert depuis 12 ans, qui souffrait depuis 12 ans de cette grande maladie, cette hémorragie, cette perte de sang, elle dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et il y a toutes sortes d'obstacles. Eh bien, Jésus lui dit, quand elle a réussi de le toucher, ta foi t'a sauvé. Il attribue justement sa guérison à la foi que cette femme a eue. Elle était persuadée qu'en touchant le Seigneur, elle serait guérie. Alors, sa foi l'a vraiment sauvée de la maladie. Et on peut croire aussi que, étant sauvée de cette maladie par le Seigneur, son cœur a apparti au Seigneur. C'est d'une guérison, évidemment, là, qu'il s'agit. Et quand Jésus voit quatre hommes qui portent un paralytique, et qui surmonte tous les obstacles, qui perce même le toit d'une maison parce que personne ne veut les laisser passer, ils vont sur le toit, ils percent la maison, puis ils descendent le paralytique au pied de Jésus. Il est dit, Jésus voyant leur foi. Pas. La foi, elle est agissante, et on la voit, et on la voit. Dans les évangiles, vous voyez la foi. Et la femme pécheresse, et qui surmonte au fond la honte peut-être qu'elle peut avoir d'aller chez Simon le pharisien, quand elle arrive au pied de Jésus, qu'elle pleure sur ses pieds et qu'elle les essuie avec... ses cheveux, eh bien, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, qu'est-ce qui sauve ? C'est la foi. Mais la foi est une action, c'est pas quelque chose de théorique. La foi est une manifestation, vous l'avez lu, hein ? La foi est une démonstration. Et vous trouvez tout cela, alors, dans les évangiles. Donc, dans ce sens que j'ai souligné dans l'Épître aux Romains, la mesure de foi, donc, la foi est susceptible d'accroissement. Il est dit qu'Étienne, par exemple, il était un homme rempli de Saint-Esprit et de foi. Eh bien, que Dieu nous remplisse vraiment de cette foi, que notre foi grandisse, qu'elle ne reste pas petite. Oui, la foi est susceptible d'accroissement. Et l'apôtre Paul, écrivant dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 5, il prie pour que les Corinthiens aient une foi qui grandisse, qu'on ne reste pas faible dans la foi. Alors, comme les disciples... On peut vraiment faire cette prière au chapitre 17 de Luc, verset 5. Qu'est-ce que les disciples demandent au Seigneur ? Ça peut être un sujet de prière, ça. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Ou comme l'autre, il dit, viens en aide à mon... l'incrédulité. Quand Jésus lui dit le si tu peux, c'est crois. Si tu peux quelque chose. Le si tu peux, c'est crois. Alors nous disons, eh bien Seigneur, augmente ma foi. Chapitre 17 de Luc, verset 5. Alors qu'est-ce que Jésus dit au verset 6? Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, un grain de CNV, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Mais vous n'allez pas dire, ben, moi, je vais voir, je vais essayer. Hein? Vous n'avez pas de sycomore ici. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez? Des érables. Des érables. Hein? Déracine-toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur veut dire. Ne dépassez pas votre mesure de foi. N'essayez pas vous-même. On veut toujours faire des grandes choses. Alors, pour voir si on a la foi, on va essayer. Non. La foi, voyez-vous, c'est pas une aventure. La foi, c'est une obéissance. Elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Est-ce que Dieu vous a demandé de faire ça? Il y a des gens qui nous parlent de leur échec. J'ai pourtant essayé. Je pensais avoir la foi. Et il a dépassé sa mesure de foi. Est-ce que Dieu vous l'avait demandé? Mais il y a des prédicateurs qui vous induisent en erreur, malheureusement. On vous dit, il faut faire de grandes choses, il faut avoir de grands projets pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de grands projets pour le Seigneur, mais est-ce que c'est le Seigneur qui vous a préparé le projet? Est-ce que vous avez ce projet du Seigneur? Vous croyez qu'Abraham un jour a décidé, moi je vais faire de grandes choses pour le Seigneur. Je vais quitter ma famille. Je vais quitter ma parenté. Puis je vais partir à l'aventure. On nous parle, même dans nos milieux évangéliques, de l'aventure de la foi. Vous croyez que c'est une aventure, la foi? Pas du tout. La foi, c'est une obéissance.
Si Abraham est parti, c'est parce que Dieu lui avait parlé. Dieu l'a parlé, sors de ton pays et de ta parenté. Et puis même, il a eu de la peine à sortir. Il est resté avec son père, puis il a fallu que son père meure, parce qu'il est allé seulement au bout, il est allé jusqu'à Charan. Et puis quand le père est mort, alors il est allé plus loin. Mais il ne s'est pas encore séparé de Lot, alors il a fallu qu'il y ait une bagarre entre les bergers de Lot et d'Abraham pour qu'il se sépare finalement de Lot et qu'il soit tout seul comme le Seigneur lui avait dit. Et puis après, on nous dit, oui, mais Abraham, vous voyez ce qu'il a fait, il a offert Isaac en sacrifice. Vous vous rendez compte? Abraham, tout d'un coup, il s'est dit, moi, je vais montrer à Dieu ce que je suis, là. Je vais lui montrer que je peux lui donner mon fils. C'est comme ça? Mais non. Son fils chéri, son fils qu'il aimait tant, qu'il avait tant attendu, voilà qu'une nuit, le Seigneur lui dit, Abraham, Abraham, prends ton fils, ton Isaac, et va offrir en sacrifice. Il a obéi. Et vous croyez qu'il était glorieux sur le chemin qui mène à Morija depuis Beersheba? Ce qui devait se passer dans le cœur d'Abraham? Il devait s'y traîner là-bas à Morija. Mais alors, c'est un tel travail intérieur qu'il s'est dit, mais si Dieu me le demande, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a fait toutes les promesses. Il a cru que Dieu accomplirait quand même les promesses. Il s'est dit, il le redonnera d'une manière ou d'une autre. Il n'avait jamais pensé à la résurrection. Il ne savait pas ce que c'était la résurrection. Mais il est arrivé dans la profondeur de son épreuve et de son désarroi. Il est arrivé à saisir l'idée qu'il pourrait recevoir Isaac par une sorte de résurrection. Mais il n'y avait pas d'exemple jusque-là de résurrection.